Avec ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Parce que c'est que dans la vie juive, dans le calendrier juif, c'est sûr que Kippour, c'est le summum. C'est le jour par excellence. Je bien, Purim, c'est très important, c'est très grand, si vous voulez. Mais a priori, ça n'est pas comparable à Kippour. Et le Harizal dit le contraire. On va essayer de voir. Cet enseignement, il est très connu, il est ramené dans le Mishnah Eliyahu aussi. On va essayer de comprendre les choses. Et pour ce faire, on va utiliser un enseignement du Gaon de Vilna qui dit la chose suivante. Le Gaon rapporte que durant le Galout chez les Mèdes et les Perses, c'est-à-dire le Galout dans lequel on était à Purim, ils ont eu la tsara, ils ont eu cet ennui, cette souffrance aussi, et que c'est venu du fait qu'ils ont joui, ils ont profité du repas d'Achashverosh. Ils ont bu du vin. Et c'est pour ça que il est écrit en fait mi gefen, en fait c'est la raison pour laquelle on a instauré qu'Apourim justement doit se réjouir parce que le deuil, enfin les ennuis qu'ils ont eus sont venus du fait qu'ils ont mangé et ils ont bu là où ils n'auraient pas dû. Alors maintenant, puisque le deuil en question a été, comme on dit, tout a été changé, alors on a été metaken, on a instauré de manger et de boire. On a instauré un festin, si vous voulez, puisque par le festin dont on a profité, on a été amené dans les grands ennuis dans lesquels on était à l'époque de Purim, et bien puisque ça se retourne, alors on va faire la même chose, mais de notre côté en fait, de façon positive. Il faut qu'on comprenne exactement ce que dit là le Gaon. Ils ont fauté à cause d'un problème, ils ont mangé, ils ont bu des choses qu'il ne fallait pas. Alors, pour cette raison, quand on va se réjouir du salut qui nous est arrivé, de ce qui nous est arrivé de positif, on va aussi manger, on va boire. C'est-à-dire, en fait, pourquoi est-ce que le contenu, un des contenus fondamentaux de Purim, ça consiste à refaire ce qui a été mal fait dans cette fameuse génération de Purim. Alors le Gaon lui-même, à un autre endroit, il donne des éléments avec lesquels on va pouvoir commencer à essayer de comprendre. Il dit: le lev, le cœur, il a toujours une guerre avec Amalek. Amalek, dit-il, Amalek, c'est en quelque sorte le foie du fouilleur. C'est-à-dire qu'en fait, le foie, il est lié avec les désirs dans le domaine de la achila, des choses qu'on a envie de manger, etc. C'est marqué dans le Zohar, sur le pasuk Vayomer Esav El Yaakov Al Iteni Na Mina Adom Adom Azé. Hale iteni na. Si on prend les les initiales de ces mots-là, ça donne l'Hachem Be'Amalek. La guerre d'Hachem, donc, contre Amalek. Donc, explique le Gaon, la source dans l'écriture, et la source dans l'écriture, c'est la source de toute chose, puisque si c'est dans la Torah, c'est le plan, c'est inscrit dans le plan du monde. La Torah, c'est le plan du monde. Donc, dans l'inscription, dans le plan du monde, il y a cette idée de l'Hachem Ba'amalek. Où est-ce que c'est marqué? Bon, on n'est pas surpris que ce soit écrit là-bas. C'est écrit au sujet d'Esav. C'est-à-dire, dans la mesure où Esav, c'est le grand-père d'Amalek, on n'est pas tellement étonné que ce soit dans un passouk qui nous parle d'Esav, qui nous parle d'Esav dans un moment où on le voit entièrement pris par un désir de manger qui est tellement fort qu'il ne voit même pas ce qu'il mange. Il n'est pas capable de dire que ce sont des lentilles. Le rouge, là, il ne voit que la couleur, et en plus, c'est une couleur à laquelle il est sensible, c'est la couleur du sang. Il avait des lentilles rouges. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, dans le fondement de la lutte d'Hachem contre Amalek. Dans les psukim, c'est écrit que la guerre est une guerre d'Amalek, une guerre d'Hachem contre Amalek. Milchama la Amalek, Hachem a une milchama contre Amalek. Et ça, c'est dit en termes d'un désir qui dépasse toutes les bornes de manger, mais de... C'est même pas manger, c'est engouffrer en quelque sorte. Et vous savez bien que dans le pasouk, quand il dit « al-eitenina », ça veut dire « charge-moi », comme on charge un chameau, quand on veut qu'il prenne des réserves pour tout le voyage, alors on le bourre en quelque sorte. Il dit « charge-moi », il parle même pas de manger, il parle pas « donne-moi à manger », c'est pas « j'ouvre ma gueule », quoi, quasiment, et toi, tu jettes tout ce que tu peux de ce rouge-là en moi. Donc, si vous voulez, c'est une description d'un désir par rapport à la nourriture absolument extrême, en fait. Et c'est ce verset-là qui dit, comme toute la Torah est toujours aujourd'hui, on dit un hypertexte, ça veut dire aujourd'hui, on a compris qu'un texte pouvait être un espèce de feuilletage à toutes sortes de niveaux, on peut lire le texte. Ici, on peut lire un texte ici en tenant compte des initiales des mots qui sont utilisées. Si on prend les initiales des mots, on les arrange, ça donne l'Hachem Ba'amalek. Bien, on voit donc que l'essentiel de la spécificité d'Amalek du côté de la Touma, du côté de l'impureté, c'est dans sa tava, dans son désir de manger. C'est ça l'aspect Amalek, en quelque sorte. Et au fond, c'est le shoresh de la mida des sables. C'est-à-dire le shoresh, la racine du mal dans le monde. Et c'est pour ça que le Gaon ramène ce Zohar de Al-Itenina. C'est ça le problème de la ta'ava, le désir. Le désir, c'est même pas un désir de manger. On entend dans cette description là, on voit rien, on voit pas du tout de le travail, si vous voulez, de mâcher ou d'avaler, etc. C'est aucun effort. Faut le charger. Faut que ça rentre en moi. Maintenant, bien entendu, la Torah, elle met ce désir-là en rapport avec la Bechora, puisque c'est pour avoir cette nourriture-là qu'Esav a été d'accord de payer en termes de « je te donne ma Bechora ». C'est Aleitenina contre la Bechora. Si on les regarde un peu plus près, on trouve encore un autre endroit dans le commentaire du Gaon sur Michelet. Il écrit Atahava, le désir, l'onitna le Israël klal. Et là, le Umot Haolam, le Esav ou le Zaro, Vu Sarav ou le Usaro, Velo Nitan Haolam Azé. C'est-à-dire, la Tava, c'est à ce point la mesure caractéristique d'Esav. C'est ce qui effectivement fait la grande différence entre les deux jumeaux, Esav et Yaakov. La Tava, elle n'a pas du tout été donnée au Bnei Israël. La Tava, c'est quelque chose qui appartient d'une certaine façon. On verra ce que ça veut dire. Elle appartient à Esav et à sa descendance. On peut donc dire ici que l'argument qui justifie en quelque sorte le fait que les Bnei Israël aient été confrontés à ce problème d'Aman, c'est qu'ils ont été nés de la souda de ce rachat, chez Otto Rachat. Donc, le problème, c'est pas du tout, il fallait pas y manger ni y boire. Parce que ça, on peut dire, d'une certaine manière, ils y étaient obligés. C'était un repas national, ils pouvaient, on a fait tout ce que vous voulez. Il y avait tous les hercherim que vous vouliez, c'est tout à fait cachère. Vous n'avez aucune raison de ne pas manger avec nous. Aucune raison. Donc, manger, boire avec eux, c'était permis parce qu'ils sont moins anoussim. Ils sont contraints de le faire. Et donc, c'est l'utilisation du verbe nehenu. Littéralement, c'est ils ont eu une hana'a, une jouissance de ce repas. C'est pas simplement qu'ils ont mangé et c'était bon. Il y avait certainement de très très bonnes choses. Il y avait les meilleurs vins possibles, probablement. Mais le problème, c'est que dans ce repas, jouir de ce repas, c'était faire en sorte que ce repas n'était que satisfaction donnée à son désir. Aucune dimension spirituelle, aucune autre dimension que la satisfaction grossière presque animal de son désir. Et ça, cet aspect, cette façon de prendre la vie, en quelque sorte, ça a donné à Amalek la puissance, la chemise de la rogue ou la bête. C'est-à-dire que, à partir du moment où, il tient les Bnei Israël, en quelque sorte, Amalek. Il les tient parce qu'ils sont complètement dans son domaine. Ils sont entièrement dans le domaine de la Hana'a. Et on a vu, le Gaon a dit, la Hana'a, ça. La Tava, plutôt. Ça appartient à Esav. Si tu conduis de cette manière-là, tu es dans le domaine d'Esav. Tu t'es livré pieds et poings liés à Esav. Alors, c'est tout, c'est fini. C'est perdu. La chemise, la robe, la bête. Pas simplement tuer. Effacer des traces. La bête, Iboud. Le fils du Gaon, dans son commentaire sur Tehilim, il dit effectivement sur le pasouk, Achlou v'ishtachavu, kod shnei haaretz, eretz lefanav, yichru, kol yordei afar. Il écrit, il semble, je commente tout ce psaume, en fait, qui est fondé sur les paroles de Chazal, de telle sorte que ça, les psukim reflètent exactement la chose. Après que David HaMelech ait exprimé Beruach HaKodesh, la tzara, c'est Ta'avor Bimé, au temps de cet Ayelet HaShachar, c'est le Tehilim, c'est Ayelet HaShachar, le psaume de la biche de l'aube, là, qui est le psaume qui décrit cette situation-là. Ayelet HaShachar, c'est Esther. C'est aussi, certaines manières, ça touche aussi Mordechai. Et en fait, toute la génération. À la fin de ce psaume-là, il donne une indication, David Amer donne une indication sur le pourquoi ils en sont arrivés là. Pourquoi est-ce que Aman a eu tellement de pouvoir, en fait. Et il explique que il y avait deux choses. Achlou, venenu mi seudato shel oto racha, vishtachavu latselem. Ils ont mangé, ils ont profité du repas de ce racha-là, et ils se sont prosternés à une image du. La reine, pour cette raison, il dit, Achlou vaishtachavu. Ils ont mangé et ils se sont prosternés. Très certainement, s'ils avaient réfléchi à ce qui se joue là, ils ne l'auraient pas fait. Mais en fait, ils étaient tellement dans un processus de se faire plaisir, de donner à leur corps la jouissance des choses matérielles, des choses terrestres, ils se sont occupés de leur corps, ils ne se sont pas du tout occupés de leur âme. Donc lui aussi, comme son père, il explique que l'accusation de Nehenu, mais Soudato chez le Toracha, c'est parce qu'ils étaient en train de se donner de donner du plaisir à leur corps. C'était entièrement un plaisir complètement matériel. Ils ont donné, c'est Tavad Goufam, ils ont laissé leur corps prendre le pouvoir, en quelque sorte. Ils recherchaient quelque chose qui était sans lien aucun avec la neshama, avec l'âme. Aucune dimension spirituelle, si vous voulez. Donc ça veut dire, encore une fois, ça veut dire qu'ils sont entrés dans le domaine des saves. Ils ont pris la mida des saves. Or, Esav, c'est le Chorej d'Amalek. Si vous voulez, dans Esav, Esav c'est le mal. Mais Esav c'est quand même le fils d'Yitzhak Avinu. C'est quand même quelqu'un qui, il est un peu ambigu, il a quand même une tête qui va aller d'elle-même rouler dans Marat HaMakpela. J'ai déjà dit plusieurs fois, mais il faut bien l'entendre. N'importe quelle tête ne va pas dans Marat HaMakpela. Elle y va d'elle-même. Parce que c'est sa place. Mais dans Esav, il y a quelque chose de positif, mais il y a aussi en quelque sorte, un noyau qui est le noyau du mal. Le noyau du mal dans Esav, c'est Amalek. La pointe avancée d'Esav comme mal, c'est Amalek. On peut maintenant essayer de comprendre un petit peu ce que le Gaon disait sur la question de qui était, mais pourquoi fixer comme une des choses absolument fondamentales le jour de Purim la notion de Seouda sur le modèle de la Seouda dont ils ont joui. Évidemment, on a déjà bien compris que le vrai tikkun de ce qu'ils ont fait, c'est de faire la même chose, mais en inversant complètement les choses. C'est-à-dire faire un repas dans lequel la jouissance, elle sera une jouissance tourner vers la jouissance de l'âme et pas du tout la jouissance du corps. Mais faire quelque chose qui est tourné entièrement vers l'âme en ne donnant rien au corps, c'est ce que nous faisons à Kippour. En Kippour, on essaie d'être comme des malachim. S'habiller en blanc, etc. On fait toutes ces sortes de choses qui sont réputées être des démarches d'anges. En particulier, on ne mange pas, on ne boit pas. Effectivement, se consacrer à l'âme entièrement quand on nie totalement le corps, bon, c'est très bien. C'est... Ok. Mais ça n'a rien de commun. Ce n'est pas comparable du tout avec se consacrer à l'âme en donnant néanmoins au corps à manger et à boire. Ce qu'on a bu et ce qu'on mange et qu'on boit le soir, durant le michté de Purim, ce n'est pas de la nourriture spirituelle. C'est concret. Le vin, c'est un vrai vin. Il s'agit donc de procéder exactement comme ce qui s'est passé à Purim, Vena Forchu. Il faut faire exactement le contraire. Et le contraire de la Néhéné Misoudatosh El Racha, c'est d'être Néhéné d'une Seouda, mais de façon spirituelle. Le contraire de la Hana, de la Tahava, qui est du domaine de Sav. C'est ça que le Gaon a expliqué. Le Mishté Simcha de Purim, ça vient contrebalancer, ça vient réparer la faute qu'ils ont commise en mangeant et en buvant et en étant Nehene Yiseudato Shel Oto Racha. Donc ça, c'est déjà, ça donne une idée, en fait, de cette Seouda. Dans la Gemara de Khulin, il y a la fameuse interrogation « Aman mina Torah minain » puisque, ça on en a déjà parlé, mais puisque tout est dans la Torah, alors où est la source dans la Torah du personnage Aman? Le mot Haman, où est-ce qu'il est écrit dans la Torah? Haman, ça s'écrit He Mem Nun Finat. Alors, bon, c'est très connu. On peut le He Mem Nun Finat, on peut le lire Haman, mais on peut aussi le lire Hamin. Et insérer ce mot-là dans la question qu'Hachem a posée à Adam Arishon. Quand Adam Arishon a eu honte de se présenter devant Hachem, alors Hachem lui a demandé « Hamin ha'etz, est-ce que tu as mangé de cet arbre dont je t'ai interdit de consommer le fruit ?» Le Marcho sur cette Gemara, il commente et il dit « Hamin ha'etz, on parle ici, évidemment, de ce qui s'est passé avec l'histoire du Nahash, du serpent. Parce que le serpent, il est quelque part, c'est le mal à l'extérieur encore. Mais donc, c'est Esav. Le serpent représente Esav, donc aussi Amalek. Le Gaon qui ramène aussi cette Gemara, il commente et il dit. Comme c'est marqué dans Megillah, que Haman et ses dix fils, ils sont là, ce qu'on appelle la Sitra Acha, l'autre côté en fait, côté du mal, Et le nachash est le serpent. Ve'talu oto al ha'etz. Et lui, il lit le verset, on l'a pendu al ha'etz, pas on l'a pendu sur l'arbre, mais au sujet de l'arbre. On l'a pendu et la cause de cette pendaison, c'était le problème de l'arbre. C'est-à-dire du Etz Hadaat. C'est ça la raison de sa mort. Donc, pour expliquer, on peut dire, le Etz Hadaat Tovara, cet arbre de la connaissance, du bien et du mal, ou du bien, bien et mal. Cet arbre-là, c'est, dit le Gaon, c'est Amaase Hamutar. C'est un acte permis, comme manger, boire, avoir des relations conjugales. Si on fait ces choses-là, comme il dit-il, Bemishkal, si on les fait normalement, ou le Shem Shamaim, et on les fait dans le cadre de l'accomplissement de la volonté d'Hachem, dans la Kdusha donc, c'est Tov. C'est très bien. Et sinon, c'est mauvais. C'est-à-dire, on ne parle pas ici de quelque chose qui serait totalement mauvais en soi. Ce que dit le Gaon, c'est que le mal, c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. C'est quelque chose qu'on utilise pour le mal. On utilise pour autre chose que pour faire la volonté d'Hachem. Ce qui est le mal, c'est ne pas faire la volonté d'Hachem. Donc cet arbre-là, il n'avait pas un fruit mauvais et un fruit bon. Ce fruit-là, le seul fruit de cet arbre, si on le mange en respectant les règles qu'Hachem a mises sur cette consommation, c'est bon. Et si on les mange sans respecter, ce même fruit-là, c'est le mal. On voit d'après ce qu'il dit ici, le Ramban en a déjà parlé dans son commentaire sur les psukim du début de Parshat Bereshit. Il dit que tout le koach de la Tahava, toute la puissance, toute la notion de désir au sens d'un désir qui est mal orienté en quelque sorte. D'où est-ce que ce désir-là, cette force, prend-elle son énergie en quelque sorte? Ça vient de cet achila de Sadat. Donc, tout le désir de ne s'occuper que des questions purement matérielles, de satisfaire uniquement le corps, le matériel, tout ça, ça vient de la consommation de ce Etz Hadaat, c'est-à-dire du mauvais usage de cette consommation. Vous savez bien que si Adam Harishon avait attendu encore quelques minutes, qu'on entre dans le Shabbat, dans le Shabbat, il avait le droit de manger. Donc, ce n'est pas le fait de manger qui est interdit. C'est le fait de manger en dehors des règles établies par Hachem. C'est pour ça que l'arbre ne s'appelle pas Etz Hadaat Tov Etz Hara Hadaat. C'est Hadaat Tov Hara. Parce qu'il y a dans cette volonté de manger le fruit, il y a le bien comme le mal. Ça dépend tout. Comment on va le manger, ce fruit? Dans quel cadre on va le manger?
Rav, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le mal, c'est l'homme qui le crée, puisque Hachem a créé quelque chose? Si on est dans sa volonté, ça s'appelle du bien. Et si on n'est pas dans sa volonté, la même chose veut dire du mal.
Non, mais c'est Hachem qui a donné la possibilité à l'homme de. Donc, c'est quand même Hachem qui a créé le mal. Il le dit lui-même. Hachem, il est Borera. Mais il n'a pas créé quelque chose qui est mauvais en soi. Mais il a créé
la possibilité
de manger en dehors des règles établies.
Oui. Merci.
On pourrait très bien imaginer que si quelqu'un veut manger en dehors des règles, bah, sa bouche ne s'ouvre pas. De tout, terminé. Il ne faut pas manger. Et donc, avec cette explication là de à la fois du Marchaud et de confirmée par d'autres endroits où le Gaon parle, on comprend bien ce qu'on a dit plus haut là dans le nom du Gaon, que la racine des saves, donc celle d'Amalek, dans la création, c'est la force du désir. C'est dans le Aleiteni Na. Ce qu'on voit bien dans la Gemara d'Anchouline, que la racine d'Esav et d'Amalek, elle vient de l'existence de cette réalité qui s'appelle le mal, mais qui existe parce qu'Adam a fauté. Donc, toute la réalité du mal, c'est une force, la force du désir en quelque sorte, qui vient d'avoir cette consommation de l'arbre de la connaissance. Donc Esav et Amalek, dont la racine vient de là, elle vient de cet arbre, enfin de la faute qui était commise avec cet arbre. Donc c'est quelque chose qui est né avec la faute d'Adam Arishon. C'est que le Gaon a dit, la ta'ava, lo nitna li Israël klal. Le désir, sous forme de désir pur, ça n'a pas été donné à Israël, bichlal. Parce que la Knesset Israël, elle appartient, elle a reçu elle est du côté du Tov. Dans ce Etz Hadaat, Tov Vera. Le côté du Tov, c'est ne pas se laisser aller à la Tahava du corps. Mais de tout faire pour que ce soit conforme à la volonté d'Hachem, au désir d'Hachem. C'est-à-dire, on peut donner au corps de la jouissance, mais il faut que ça s'inscrive dans la avodat Hachem, au service d'Hachem. C'est pourquoi les peuples, les Oumata Olam, dont Esav est le chef, ils sont les Prinatara dans le Hetzadat. Donc, leur puissance, elle vient, elle est dans la notion de désir. Et Israël, qui sont du côté du Tov, tout leur spécificité, c'est de vouloir faire les choses conformément à la volonté d'Hachem, de donner la jouissance au corps. L'Hachem, l'Ushat, ve'avodat Hachem. Bon, c'est pas que c'est interdit de donner la jouissance au corps. Ça n'est pas du tout qu'on n'a pas le droit d'aimer quelque chose lors de manger, etc., ou boire. Mais il faudrait être sûr que c'est fait pour la Kedusha. Et comme on n'en est pratiquement pas sûr, alors la tendance de ceux qui veulent bien faire, bien, c'est de ne rien donner au corps. Par peur de lui donner au corps quelque chose qui serait pour lui, uniquement pour lui. Que l'avoir donné au corps, c'est une fin en soi. C'est pas le donner au corps pour qu'il le mette au service de la avoda, c'est bien montrer que donner au corps n'est pas une fin en soi. C'est une étape. On peut un peu mieux comprendre c'est un commentaire de Agmara Brachot qui est en fait aussi qui vient aussi ultimement de Gaon. On dit qu'il faut servir Hachem b'chol levavcha avec le Yetzeratov et le Yetzerara. Ben, on aurait pu écrire Bechol Libcha sans répéter le Bet, sans Lamed Bet Bet Kaf. On aurait pu Libcha, Lamed Bet Kaf. Le Vavcha, ça donne l'idée qu'il faut servir Hachem avec les deux Yetzer, Atov et Ara. Alors il explique, c'est parce que toute la création du Yetzer Ara, c'est pour qu'il y ait un travail à faire pour le vaincre, et ce qui va donner un mérite, donc si vous voulez un salaire, à celui qui refait ce travail de lutte contre le Yetzer Hara. Et il dit, s'il n'y avait pas Yetzirah, il n'y aurait pas eu un seul, même un seul moment de vie, vraiment. Parce que le Yetzirah Tov, il ne veut pas obligatoirement ni manger, ni boire, ni rien de tout ça. Hachem a mis le Yetzer Hara Parce que grâce au Yetzer Hara, on aura envie de manger, on aura envie de boire, on aura envie, etc. Et donc, ça assure la vie. Seulement, voilà, seulement ça pose un problème. Pour la vie, il faut le Yetzer Hara, mais il faut gérer le Yetzer Hara. C'est à gérer. Et on a déjà dit de nombreuses fois que la gestion du Yetzer Hara, elle est comparée à la cuisson d'un plat dans lequel il faut mettre des épices pour le rendre vraiment comestible. Et les épices, c'est la Torah. La Torah, elle est ce qu'on appelle tavlin. Ce sont les épices qui permettent de consommer le Yetzer Hara, qui permettent de vivre avec le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara étant à la fois une condition pour la vie, mais c'est comme si cette condition, là de nouveau c'est la même idée, il faut que la recherche de la vie, si vous voulez, ne devienne pas une fin en soi. Mais la vie, c'est la vie pour servir Hachem. Et pas la vie en soi. Donc dans la Torah, il n'y a pas cette idée que la vie prime tout. Ce n'est pas le cas. La vie est quelque chose de très important parce que ça permet de servir Hachem. Sans la vie, on ne peut pas faire, comme on dit dans le Hallel, lo ameti mial luka. Les morts, ils ne peuvent pas louer Hachem. Les vivants peuvent le louer. Il faut que cette vie serve à louer Hachem. Si ce n'est pas pour ça, la vie pour la vie, c'est pas de chez nous, en quelque sorte. Alors, bien sûr, on va faire beaucoup de choses pour préserver la vie. Et on préserve la vie parce que ça permet de continuer à servir Hachem. Pourquoi quand il y a un problème de risque de vie, pourquoi on est mechalel Shabbat? Pour pouvoir vivre d'autres Shabbatot. C'est-à-dire pour pouvoir servir Hachem. C'est sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette question de l'importance de la vie. Mais en réalité, la vie est très importante, mais c'est pas, mais pas la vie comme finalité. La finalité, c'est servir Hachem. Qui est-ce qui a laissé son micro ouvert? Le Ktav Sofer, dans la Torah, dans son commentaire sur la Megillah, il écrit dans la Gemara dans Chulin, la Gemara elle demande Aman mina Torah minaïn, c'est marqué Aminaetz. Nireli, dit-il, il me semble, Sheba, que cette question dans la Gemara, elle vient le ramez de Zé, elle vient faire allusion au fait que comme Shechato shel Adam Arishon, Aya beze sheachal me'asher tzivahu shelo yochal. Ça vient de ce que, de même que la faute d'Adam Rishon a été dans le fait de manger quelque chose dont Hachem avait dit qu'il ne fallait pas le manger, en tout cas pas à ce moment-là. Ken chatam chatam aya beze shachlu mimacholot asurot v'ne'enu misudato shel oto rasha. Lui dit qu'ils ont mangé des choses interdites. Et c'est ça le Hamin. C'est-à-dire la Xéra de Haman, elle vient pour la, enfin, à cause de la faute de la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance. Donc lui, le Ktav Sofer, il pense que Hamin, Haman min la Torah, que la source dans la Torah de Haman, c'est-à-dire que la question était d'où vient la, où est la source de la Xéra d'Haman. Elle vient de ce qu'ils ont mangé de la souda de ce rachat, dont la racine, c'est une faute dans la racine et dans la faute d'Adam Arishon. Encore une fois, c'est cette même idée que la faute d'être néné misudato shel otoracha, c'est le mal. Qu'il y a dans la tava, dans le désir de faire plaisir à son corps, en quelque sorte. Comme on l'a vu. Sauf que lui, il introduit une notion de d'avoir mangé quelque chose d'interdit. Je trouve que l'explication, bon, c'est pas incohérent complètement avec, c'est pas différent complètement avec ce qui a été dit, mais c'est un peu différent. Et je trouve que le, ce qu'on avait dit avant, sans introduire la notion de nourriture interdite, est plus subtil, c'est plus fin que de dire que c'est parce qu'ils ont mangé des choses interdites. Mais disons, c'est peut-être plus facile à comprendre. Bon, on va revenir maintenant sur le point qu'on avait soulevé au tout début, à savoir pourquoi est-ce qu'on considère que Pourim c'est plus élevé que Kippourim. Dans un ouvrage qui est imprimé en général à côté du, en même temps que l'Eliyahu du Rina, il ramène la chose suivante. Il dit dans le Midrash, dans le Zohar, si vous voulez, on dit que Alev Meharer Bedivrei Torah, le lève, le cœur, il produit et il réfléchit. C'est un lieu de réflexion des paroles de Torah. Et le kaved, le foie, il accuse. Et ensuite, il veut manger. Et du coup, il essaye de troubler le cœur, de l'empêcher de réfléchir, de le déranger dans son étude. Et il dit au cœur, « Achata me'arer bedvarim elu » le livret Torah, « Arer ba'achila ushtia le kayem gufam » au lieu de réfléchir à des questions théoriques, les livrets Torah, il ferait mieux de réfléchir à comment est-ce qu'on peut nourrir les gens, comment on peut s'assurer que les gens ont à manger. Parce qu'il faut bien qu'ils arrivent à survivre. Et ceci, c'est ce qui est écrit dans le passouk, Vayomer Esav et Yaakov, Aliténina, charge-moi en quelque sorte. C'est pourquoi dans Akipour, où c'est marqué Vinitem, vous ferez souffrir en quelque sorte. Ce jour-là, le Yetzirara, le Satan, le Malach HaMavet, il n'a pas le droit d'accuser. Parce que ce jour-là, il ne lui appartient pas. Ce jour, il appartient uniquement à Israël. Ça veut dire qu'à Kippour, il y a un tikkun aussi. Il y a une réparation qui s'intéresse à une réparation de la force du mal dans le désir. Donc, on a vu plus haut que c'est l'essentiel de... C'est Esav dans la version à l'Itenina. Ça, c'est la mitzvah tayom, la mitzvah du jour de Kippour, c'est vi'initem et nafshotechem. Vous ferez souffrir vos âmes. C'est-à-dire, en fait, ici, Nafshotechem, il ne faut pas l'entendre comme les âmes, il faut l'entendre comme les corps. Et à Kippour, c'est marqué Vinitem et Nafshotechem, c'est l'ordre divin. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour la force du mal sous la version Aleitenina. Parce qu'il n'y a pas. On ne donne rien au corps ce jour-là. Donc on voit que ce soit Kippour ou que ce soit Purim, dans les deux cas, il y a un processus service d'Hachem qui va s'opposer à la force du mal, dans la version Aleitenina, celle d'Esav. C'est-à-dire la réalité du mal, version Esav. Sauf qu'à Purim, le processus d'Avoda, le processus de service d'Hachem, c'est d'arranger les choses en mangeant et en buvant. C'est-à-dire dans un mouvement de Kedusha. C'est ça le Mishté Simcha de Purim. Et cet aspect des choses, c'est, si vous voulez, servir Hachem, bechol levavcha. Parce que ça veut dire que même ce qui d'ordinaire sert au Yetzirara, Machal et Mishté, on l'utilise ici au service d'Hachem. Et donc les processus du corps sont au service d'Hachem. Alors qu'à Yom Kippour, on se coupe de la sorte du corps, dans toute la mesure du possible. C'est-à-dire qu'on considère que la nourriture, on ne s'en occupe pas parce qu'elle est entièrement, on la voit comme entièrement du mauvais côté. Donc, Yom HaKippourim, Ou c'est Vinitem et Nafshotechem. Bon, alors, ici on se sépare complètement du Kohar HaTava. Et donc, dans la Kdusha de Purim, on a quelque chose qui est plus élevé que la Kdusha de Yom Kippourim. Puisqu'on sert Hachem b'chol levavcha. On sert Hachem totalement avec les deux, le Yetziratov et le Yetzirara. Mais bien sûr, c'est une chose très difficile. Donc, on comprend bien que, si vous voulez, le dans les termes, à Kippour, on parle de Tahara, qui Yomazé Ichaper Alechem, le Taher Etrem. Kippour, c'est un jour de purification par le jeûne. Alors qu'à Purim, ce n'est pas un problème de Tahara, c'est un problème de Kedusha. Et on sait bien de Mesilat Yesharim, on sait que la Kedusha c'est plus élevé que la Tahara. Parce que la Kedusha c'est mettre le corps aussi au service d'Hachem. Et à Purim, c'est à Kippourim, pardon, à Yom Kippour. C'est comme si ce qu'on faisait, c'est empêcher le corps de nous déranger, donc on le met de côté. Mais on ne le récupère pas, en quelque sorte. Récupérer, ça, c'est à pourri.
Rav Grunstein ?
Oui.
J'ai une question par rapport à cette kedusha qu'on doit mettre dans l'action de manger. Enfin, de manger et de boire au moment du micheté, ça se passe comment comment on s'y prend?
Je crois que de façon générale, si vous voulez, on peut élever le problème. Il y a une fameuse discussion très connue entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. La discussion est dans Masechet Brachot, mais enfin, en gros, tout le monde connaît. Rabbi Shimon, c'est quelqu'un qui vit dans la grotte, en quelque sorte. Il est complètement coupé du monde. Il ne s'occupe pas du monde. Il ne s'occupe pas au sens qu'il consacre aucun temps au monde. Il ne fait qu'étudier. Par opposition à Rabbi Ishmael, qui lui dit que bien sûr qu'il faut étudier, mais il faut bien faire fonctionner le monde. Là-dessus, Rabbi Shimon lui dira, mais tu sais, si tu prends du temps pour labourer, pour semer, pour récolter, etc., quand est-ce que tu trouveras le temps pour étudier? Et Rabbi Ishmael répond, Aneg ba'en Inag derech eretz. Rabbi Shimon dit, voilà, il faut faire ce qui doit être fait Et ça doit être dirigé, aneg, ça veut dire dirige cela avec les paroles de Torah. C'est-à-dire, quand tu sèmes, alors tu dois en même temps étudier tous les sujets de Torah qui ont à voir avec le fait de semer. Et donc, et les respecter, les étudier, donc les réfléchir pendant que tu sèmes. Tu dois mettre en pratique, c'est-à-dire d'abord les étudier, puis éventuellement regarder si dans ta pratique, effectivement, tu es guidé par ces paroles de Torah qui concernent ton sujet. Et donc, quand on veut manger le Shem Shamaim, etc., d'après Rabbi Ishmael, il faudrait, au moment où on mange, réfléchir à partir de cette opération de manger. Enfin, c'est pas pour savoir exactement toutes les occurrences du mot poireau dans la Mishnayot. C'est pas seulement ça. C'est essayer de comprendre comment dans la Torah on a traité le problème de la nourriture, de la production de la nourriture, de la préparation de la nourriture, de la consommation de la nourriture, et de après avoir mangé, etc. Toutes ces questions-là, c'est les sujets sur lesquels on a à discuter, mais en particulier, étant donné qu'on est à Pourim, eh bien, il faut mettre des divrei Torah qui doivent nous guider dans la pourimisation, en quelque sorte, de l'opération de manger. Je veux dire par là, qu'à Pourim, on ne va pas manger et boire comme un Shabbat. Parce que ça a une autre fonction. Shabbat, il y a une mission, il y a une notion de Oneg Shabbat. Ça fait que la Oneg est à Shabbat. Bon, c'est déjà difficile en soi, mais ce n'est pas notre sujet maintenant. Mais dans chaque situation, il faut essayer de regarder qu'est-ce que la Torah a à nous dire dans la situation dans laquelle nous sommes. Et ça veut dire vivre pleinement le moment présent. Le vivre pleinement, c'est-à-dire le vivre comme un moment qui m'est donné par Hachem pour servir Hachem. Comment est-ce que je sers Hachem dans ce moment-là précisément? Eh bien, en se demandant qu'est-ce qu'il a, si ce moment-là est un moment particulier, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et essayer d'imbiber mes activités de cette particularité de ce moment, si vous voulez, de la même manière que quand vous allez en principe à un mariage, vous allez manger, mais c'est pas pour le moment, on va pas manger pour manger. On va manger éventuellement boire pour être capable de réjouir le Khatan et la Kala. Alors des fois, on ne sait pas très bien comment on va le réjouir et il y a des gens qui s'imaginent que voilà, réjouir, c'est obligatoirement faire ceci ou cela, alors que peut-être c'est pas ça qui réjouirait particulièrement le Khatan et la Kala. Mais peut-être que le Khatan et la Kala, ils savent même pas ce qu'ils devraient jouer vraiment. Ils font comme tout le monde. Ce qui est en certaine manière un peu dommage. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais donc à Pourim, il faut pourimiser en quelque sorte le fait de manger, c'est-à-dire dire, on va déjà en disant des livrets Torah qui ont à voir avec Pourim, ça va peut-être mener à ce que la nourriture ici soit une nourriture dont le corps profite, mais pour servir Hachem. Et c'est sûr que si quelqu'un s'assied à la souda de Pourim et qu'il profite et qu'il prend beaucoup de plaisir parce que on lui a concocté une souda magnifique, si ça s'arrête là, il n'a rien fait. Sa souda, ce n'est pas une souda de Pourim. Parce que c'est une souda dans laquelle il n'a donné qu'à son corps. Bien sûr, c'est un peu compliqué de savoir exactement comment, quand est-ce qu'on peut dire que j'ai donné. C'est ça le problème. Comment on fait pour servir Hachem avec les deux Yetzer? C'est un problème permanent. C'est pour ça que d'une certaine manière, Kippour, c'est plus facile que pour une. Parce que c'est très clair ce qu'il faut faire. On ne mange pas, on ne boit pas, donc c'est voilà. On a déjà pris ses distances avec le corps. Mais mettre le corps au service d'eux, ça c'est déjà, c'est un art. Ça c'est pourri. Bon, je ne dis pas que je sais le faire, je pense qu'on peut au moins dire des choses qui concernent Pourim au moment où on mange et on boit lors de cette Seouda. Et puis une des façons d'y arriver, c'est de boire juste assez pour Adeloyada, jusqu'à ce qu'on fasse plus cette différence dont on a déjà abondamment parlé entre Arour Aman et Baruch Mordechai. Voilà, ben maintenant vous êtes équipés pour la Seouda de Pourim. Alors, je vous souhaite une bonne Seouda de Pourim, un joyeux Pourim.